Mais le premier sang qui a été versé sur terre, dites-moi, c'est qui? C'est Caïn et Abel, hein, c'est ça, c'est ça. Je lis dans Genèse au chapitre 4, versets 9 à 11. Il est dit ceci: l'Éternel dit à Caïn, c'est la première famille, c'est deux frères. Et il y en a un, Caïn, l'aîné, qui a commis un meurtre, qui a tué Abel et qui l'a enterré, qui l'a caché. Et c'est l'histoire de notre humanité. C'est horrible, le péché et la haine que nous pouvons avoir les uns envers les autres. En tout cas, voilà, la toute première famille, le grand frère a tué son petit frère. Et l'Éternel dit à Caïn, il appelle cet homme, ce meurtrier, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» C'est une parole, ça, hein? C'est une parole d'égoïsme, de rejet, qui caractérise aussi notre comportement les uns envers les autres. Moi d'abord, moi tout seul, le reste, ça ne me regarde pas. Hein? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais Dieu connaît toutes choses. Et il dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Voilà. Et ça a traîné tout au long de notre histoire humaine. La déchéance de l'être humain, la violence, la haine, le péché et son expression avec ce sang versé et bien d'autres misères et atrocités de notre monde. Et Dieu en est témoin. Comment Dieu peut aimer un monde comme cela, où nous-mêmes, avec de tels caractères, héritant de cela, nous sommes si détestables? Nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Je ne peux pas comprendre comment Dieu m'aime. Avec toute la noirceur de mon âme, de mon être, je n'ai pas fait directement, exactement ce que Caïn a fait. Mais je découvre dans la parole de Dieu que Dieu veut sauver un monde aussi coupable que Caïn. Et dont vous et moi, nous en faisons partie. Et pour cela, un jour, il a décidé de venir. Il s'est incarné, Jésus, Dieu le Fils, il est venu au milieu de nous. Il a marché au milieu de nous et nous connaissons l'histoire des évangiles, sa grandeur, sa bonté extraordinaire, comment il s'approche directement des uns et des autres et comment un jour, librement, de son propre choix, il s'est laissé frapper, humilié, crucifié sur la croix et où il a versé son sang. Et la Bible dit qu'il l'a fait cela librement. Il l'a fait pour nous. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc nous avons d'un côté le Seigneur qui voit le sang d'Abel versé. Mais voilà ce que je lis dans 1 Pierre. Au chapitre 1, verset 18, pour nous. Ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. Dieu nous aime, nous l'avons chanté, il y a un sang précieux qui a été versé. Et dans Hébreux au chapitre 12, au verset 22 à 24, en prenant quelques portions, il nous a dit, vous êtes approchés de Jésus, verset 24, vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus. Le sang d'Abel a parlé à Dieu et son sang a crié condamnation, jugement. C'est ce que cela a produit. Mais le sang de Jésus parle mieux. Dieu a voulu que cette terre n'ait pas seulement reçu le sang du péché, le sang de la violence, de la haine, de la mort, le sang d'Abel, mais il a tout fait. Il a tout calculé depuis la fondation du monde pour passer par-dessus le sang d'Abel versé dans le péché et dans la violence. Il a voulu couvrir cette terre d'un sang extraordinaire et si précieux. Et ce sang, la Bible nous dit qu'il parle mieux à Dieu et à nous que le sang d'Abel. La parole de Dieu nous dit aussi que Jésus, quand il a versé son sang, eh bien, il est ressuscité. Nous l'avons chanté tout cela. Et en allant au ciel, qui est le sanctuaire, là où il y a la présence de Dieu, et sur la terre, durant l'histoire, cela a été imagé et symbolisé par le tabernacle, puis après par le temple, par les sacrifices des animaux. Mais Jésus, lui, il est l'agneau de Dieu, et finalement, au travers de ce qu'il a fait, il est par la suite rentré dans le vrai temple de Dieu, le vrai sanctuaire où il y a la présence de Dieu dans le ciel. Et il nous est dit dans Hébreu au chapitre 9, à partir du verset 11 et jusqu'au verset 15, vous le lisez avec moi, vous voyez, mais je lis à partir du verset 12. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, dans le ciel. Non avec le sang des boucs et des veaux. Après sa résurrection, il est monté au ciel, apportant son sang, comme les sacrificateurs qui entrent dans le sanctuaire et pour être acceptables, ils présentaient le sang des bêtes. Et là, il nous est dit que Christ est entré dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui se sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, combien plus ce sang purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez dans un but afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur par son sang d'une nouvelle alliance. Alléluia. Le sang de Jésus. Alors, en fait, dans l'histoire de l'Évangile, venons en projection, en imagination, mais aussi au travers des pages de la parole de Dieu, pour voir comment, quand, de quelle manière le sang de Jésus a été répandu et qu'est-ce que cela peut avoir comme effet efficace, salvatrice, salvateur pour notre vie. La première fois qu'on voit le sang de Jésus versé, maintenant vous comprenez vers où on va, on suit son histoire, où c'est que le sang de Jésus a été versé pour la première fois. On le voit dans le jardin de Gethsémané, la première fois. Quand il nous est dit dans Luc au chapitre 22, « Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il priait encore plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voilà. Dieu du haut de son ciel, Dieu le Père, regarde le sang versé. Les premières gouttes qui tombent, c'est dans ce jardin enténébré où Jésus savait ce qui l'attendait. Librement, il était venu sur terre pour aller porter notre iniquité, notre misère, notre souillure. Mais lui, il n'a jamais commis le péché. Il n'a fait que du bien. Il pouvait même dire, qui de vous me convaincra de péché? Il avait en horreur le mal. Il voulait toujours et toujours vivre en victorieux sur le péché et tout à la gloire de Dieu le Père. Et voilà, son heure approche. La croix est là, qui l'attend, il le savait. Et juste auparavant, dans la nuit, il était tout seul. Seul, loin de l'aide qu'il aurait souhaité de son entourage, de ses frères, dans la foi de ses disciples. Et là, il tombe à genoux. Et il y a un combat devant quelque chose de difficile, d'horriblement difficile dans la chair pour lui. Et dans la chair, il aurait aimé éviter cela. C'est sa volonté dans la chair. Mais là, il a lutté et il a dit, dans ce combat intérieur, il dit, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et le combat était tellement dur parce que l'adversité était là. Et l'envie de lâcher, l'envie de jeter l'éponge et de dire, « Bon, mais j'avais penser faire cela, mais non, mais c'est trop dur. » Il a lutté jusqu'à verser du sang de son front. Et finalement, il en est sorti vainqueur. Et il a dit, « Je vais soumettre ma volonté à celle de mon Père. Même si cela me coûte, même si c'est le sang de ma vie que je dois verser, eh bien c'est ce qu'il a fait. » Et ce sang nous parle, mieux que le sang d'Abel. Ce sang me parle que ces grumeaux versés par Jésus pour soumettre sa volonté à celle de Dieu est pour moi, si je me mets au bénéfice de son sang, la possibilité de vaincre moi-même face à mes choix des fois, à des moments où, dans la chair, j'aurais voulu choisir tel chemin, mais je sais que telle volonté de Dieu est bien meilleure et tout à sa gloire. Par moi-même, je ne peux pas. Par moi-même, je suis incapable de pouvoir faire ce choix. Mais parce que je me place sous le sang de Jésus, il a acquis par ce sang versé pour moi la victoire sur ma volonté rebelle et désobéissante à Dieu. Y a-t-il, mon frère, ma sœur, et je parle pour moi-même dans ma vie, mais peut-être pour quelqu'un en ce moment même, un moment de choix particulier entre ce que ta chair te dit et ce que tu sais au plus profond de toi-même, ce qui honore la volonté de Dieu, ce qui est un bien peut-être pour ton entourage, parce que Jésus savait que s'il versait son sang, c'est pour les autres. Et des fois, notre volonté n'a pas envie de faire du bien pour les autres. On n'est pas crucifié, nous. Hein? Voilà. Je ne sais pas. Mais que le Saint-Esprit, ce matin, puisse nous permettre, en même temps que nous allons prendre ce repas, et eh bien que nous puissions nous souvenir que nous mettre sous le sang de Jésus me donne une force particulière pour vivre et faire la volonté de Dieu. Quand je lis dans Colossiens chapitre 1, verset 22, il est dit « Dieu a voulu par son Fils réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Jésus nous aime tellement, il nous aime tellement qu'il a fait passer la volonté divine de nous sauver au-delà de son propre confort personnel. Que Dieu nous aide. Merci pour le sang versé de Jésus qui me permet d'avoir la victoire sur ma volonté charnelle et rebelle. La deuxième fois que le sang de Jésus a été versé, c'était dans la cour des soldats. Je le lis dans Matthieu chapitre 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Une cohorte, c'est à peu près 600 soldats. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. On s'arrête là. Il nous est dit que Pilate avait fait relâcher le bandit Barabbas et il a arrêté Jésus. Il a fait arracher ses vêtements et il a demandé aux soldats, il a laissé les soldats prendre le fouet. C'est pas n'importe quelle chose, ce fouet. C'est lanière en cuir avec des osselets taillés ou des pointes de plomb. Il frappait. C'est ce qu'on faisait pour les suppliciés, les condamnés. On déchirait leur corps avec ces lacets. Et c'est pour cela que, selon la loi romaine, pour ne pas aller au-delà d'un non-retour, il ne fallait pas donner au-delà de 39, ne pas atteindre jusqu'à 40 coups. C'est pour cela que Jésus a été frappé de 39 coups moins 1. Quand je lis dans le psaume au chapitre 129, verset 3, un psaume prophétique où il nous est dit « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse ». Mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé de longs sillons. On ne peut pas imaginer la chose. Moi, j'ai un dos tout à fait entier. Chacun d'entre nous, certainement. Mais ça devait être long. Ces coups, les uns après les autres. 39 coups. Et à chaque coup, son dos était lacéré, déchiré, déchiré, en lambeaux. Et de ce dos déchiré d'une souffrance indescriptible, eh bien, le sang a coulé. Deuxième fois que de ce corps meurtri, le sang a coulé. Et qu'est-ce que ce sang me procure et me parle mieux que celui d'Abel, ce sang sous lequel je veux me placer? Il y a dans cette souffrance du Christ la délivrance, la guérison de nos souffrances, de nos maladie. Quand il est dit dans Ésaïe au chapitre 53, et nous connaissons ce verset formidable, encore prophétique, 700 ans écrit avant l'accomplissement de cette prophétie. Méprisé et abandonné, homme de douleur. Nous avons chanté, merci à mon frère Cyril d'avoir choisi ce cantique. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. C'est vrai que c'est horrible à voir, et c'est la place des condamnés. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous n'avons pas compris le sacrifice de Jésus. Les hommes ne comprennent pas. Mais quand le Saint-Esprit nous ouvre le cœur et la compréhension spirituelle, nous comprenons. Nous comprenons qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les meurtrissures de Jésus. Oh, nous avons besoin, les uns et les autres, tout au long de notre vie, d'être guéris. Guéris, bien sûr, nous pensons immédiatement à la guérison physique. Et combien cela est important pour chacun d'entre nous. Et combien cela est actuel pour plusieurs. On vit sur le fil par rapport à la santé et aux besoins de la guérison physique. Mais chacun d'entre nous, dans le cours de la vie, il y a 1000 blessures. Des blessures qui ne sont pas obligatoirement dans notre chair physique, mais des blessures à l'intérieur, des blessures dans d'autres domaines de la vie. Et tout cela, la Bible dit que dans ses meurtrissures, dans son sang versé au travers de ses meurtrissures, il a assuré pour tous ceux qui se confient en lui, qui se placent sous son sang, la délivrance de leur souffrance, de leur maladie. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 24, Pierre reprend, après la prophétie de la mort de Jésus, après l'accomplissement véritable de la mort de Jésus, maintenant Pierre, après ces événements, c'est-à-dire maintenant, nous qui vivons après la délivrance, le sacrifice de Jésus, Pierre nous dit et affirme à l'Église, il dit dans sa lettre aux Églises, il dit, Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. Alléluia. Dans le cours de ma vie, dans le cours de ta vie, il y aura encore et encore sur cette terre des coups de blessures, de souffrances et de maladies. Mais face à cela, je ne suis pas seul à devoir affronter. Je sais que le sang de Jésus a coulé de son dos. Et je peux alors venir vers lui dans mes souffrances et dans mes combats pour dire et réclamer, je me place sous ton sang, Seigneur. Et j'ai foi, c'est déjà accompli. Et je veux ne pas me laisser noyer par mes souffrances et par mes maladies. Mais je me remets entre tes mains parce que tu as fait cela pour moi. Alléluia. Le sang de Jésus, la guérison de nos souffrances et de nos maladies. Donc, maintenant, on va continuer plus loin. Et on arrive, on l'a chanté aussi, On reprend le texte de Matthieu quand il est dit au verset 28, « Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans sa main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. Le sang a coulé de son front aussi. La couronne d'épines, la couronne de mépris, de rejet a été mise sur sa tête. On a mis ce manteau comme si c'était un vêtement de roi et il était sans habit, avec ça couvert, et on riait de lui avec un roseau. On tapait sur sa tête avec cette couronne d'épines qui s'enfonce et qui s'enfonce. Et là aussi, je regarde ce que Jésus a fait pour moi. Et je vois le sang perler tout au long de son visage, couler pour moi. Le sang de Jésus qui parle. Mieux que le sang d'Abel, qu'est-ce que ce sang peut me dire aussi à moi? C'est pour se moquer, pour dire que tu es le roi. En fait, quand je n'ai pas Jésus, qui règne sur ma vie? C'est le diable. C'est le diable qui règne. Mais en même temps que on a fait cette couronne de mépris sur le Seigneur Jésus, maintenant que le Seigneur a ouvert mes yeux, je vois véritablement en Jésus mon roi. Et non pas un roi despotique comme le diable, mais un roi qui a pris toute la malédiction, toutes les mauvaises choses, qui couronne ma vie par ce roi qui m'oppresse. C'est comme cela que le diable règne sur ma vie. Eh bien, Jésus au travers de tout cela, et sans que les autres ne réalisent ce qu'ils sont en train de faire. Bien, c'est ce qui me parle, me dit que maintenant, il a porté, lui, mon roi maintenant. Il m'a délivré de l'ancien roi. Il est un roi différent et il a pris sur lui tout ce qui est maudit. Parce que la Bible nous dit dans Genèse, je lis ceci, quand l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. Et au verset 18 du chapitre 3 de Genèse, il te produira des épines et des chardons. Les épines, les ronces, c'est le symbole de toute la malédiction sur notre monde. Maintenant, ce n'est plus Dieu qui régnait, mais c'est la pourriture et les choses misérables de cette terre qui règne sur nos vies. Mais Jésus a pris tout cela. Il a pris la malédiction pour nous donner à la place quoi? Qu'est-ce qui est le contraire de la malédiction? Sa grâce, sa bénédiction, alléluia. Et quand dans Galates, il est dit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est celui qui est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » Alléluia. Dieu avait promis la bénédiction déjà à Abraham et à ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur. Alors, voilà ce qui est dit. Jésus a versé son sang pour devenir mon roi. Un roi plein d'amour, un roi qui me délivre, un roi qui me donne sa bénédiction. Alléluia, qui me libère du fardeau et de l'oppression de l'ennemi. Alléluia. Je continue encore avec vous, frères et sœurs. Et on va plus loin, on va voir, mais Jésus, où est-ce que tu as encore versé ton sang? Je reprends ce texte de Matthieu, quand il nous est dit... Ils crachaient contre lui, au verset 30, Il prenait un roseau et frappait sur sa tête, nous l'avons vu, verset 31. Et après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Le lieu de la condamnation à mort des pires bandits que la société, dans le jugement de ce moment-là, prononçait la peine de mort, la crucifixion. Je vois alors Jésus, notre Seigneur, être sur la croix par terre. Et je vois ses soldats venir et planter les clous dans ses mains. Là aussi, le sang de Jésus a encore été versé, de son sang. Écoute, on encore perlé. Il y a beaucoup qui a coulé, mais là encore, son sang a été versé. Le psaume 22, prophétique, nous dit au verset 16, « Car des chiens m'environnent, comme une bande de scélérats qui rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Une scène tellement haineuse, horrible. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu dans la chair. Et voilà ce que nous, les hommes, nous en avons fait. Nous avons percé ses mains. Et ses mains percées, les mains, ça sert à agir, à faire des œuvres, à agir. Eh bien, moi je vois dans ce sang versé par ses mains une délivrance et une victoire pour que maintenant, par lui, par son aide, son secours et au bénéfice de l'œuvre de la croix, je puisse avec mes mains faire de bonnes œuvres et non pas des œuvres souillées. Il nous donne la libération et des œuvres et des actes de souillure et du péché. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, où il nous est dit « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères par le sang précieux de Christ. » Avant, nous avions une vaine manière d'agir. Mais c'est le sang de Jésus qui maintenant nous libère pour que nous ne puissions pas vivre et agir vainement comme nous faisions auparavant. Et quand je lis au chapitre 9, verset 14 d'Hébreux, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez avec vos mains, vous serviez le Christ vivant. C'est par son sang, sa victoire à la croix pour nous, que nous pouvons maintenant être rendus capables d'avoir un autre comportement de service dans notre famille, dans notre église, sur notre lieu de travail, les uns par rapport aux autres. Tout ce que nous faisons maintenant est influencé par ce que Jésus a fait pour nous libérer de nos vaines manières, de nos motivations de service dans le passé. Maintenant, il nous a libérés de cela. C'est son sang versé de ses mains me rend capable à moi d'utiliser des mains tout à la gloire de son nom. Alléluia. Et bien sûr, nous arrivons, ils ont percé mes mains et mes pieds. Les clous sont aussi enfoncés dans ses pieds. Et cela me parle aussi d'une autre chose que je découvre dans les versets de la Bible. Cela me parle qu'il m'a rendu capable de marcher en nouveauté de vie et dans la lumière. Et cela est dit dans 1 Jean chapitre 1. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Même le verset 8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, afin que nous soyons rendus capables de marcher non pas dans les ténèbres, mais de marcher dans sa lumière. Alléluia. Le sang de Jésus a été versé pour nous donner de marcher en nouveauté de vie, si nous marchons dans la lumière. Le sang de Jésus continue et continue toujours à nous aider pour rester dans la lumière de Dieu. Alléluia, ça c'est formidable. J'arrive encore à une dernière scène où nous découvrons ce sang versé. Peut-être que vous y avez déjà maintenant compris et vous êtes arrivé. Dans Jean au chapitre 19, verset 33, il nous est dit, les soldats s'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ne lui rompirent pas les jambes. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne se sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit donc encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Alors, la dernière scène que nous découvrons, c'est ce soldat qui vient. Parce que c'est le soir et ils ne veulent pas laisser les condamnés agoniser sur la croix. Alors, pour rapidement accélérer leur mort, ils venaient casser les jambes, les os des jambes pour que leur corps s'affaisse et qu'ainsi ils meurent en même temps étouffés et rapidement. Mais quand ils sont arrivés vers Jésus, le soldat qui devait faire cela s'aperçoit que Jésus avait déjà poussé ce cri extraordinaire. Tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Et Jésus a poussé un grand cri et il est mort. Alors le soldat, pour être sûr, malgré ce qu'il venait de voir, bien, il a pris la lance et il a enfoncé dans le côté de Jésus. Et j'imagine que cette lance, percée d'en bas jusqu'en haut, a atteint jusqu'à ses organes et certainement aussi son cœur. Et il n'y avait plus rien. Les dernières gouttes de sang se sont vidées. Il y avait du sang et un peu d'eau qui coule. Mais tout a été versé. Tout a été versé. Le don de son cœur percé pour moi, de ce sang qui a coulé de son cœur, me parle de la capacité d'avoir quand nous nous approchons de Jésus, quand nous nous mettons au bénéfice de son sang, le don d'un cœur nouveau. Dans Ézéchiel, au chapitre 11, verset 19, il nous est dit, je leur donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Oui, par moi-même, je ne peux pas me changer. Je ne peux pas changer mon cœur, ma vie, ma nature. Je ne peux pas. J'ai un cœur corrompu. Ce qui fait fonctionner mon être est corrompu au plus profond, à la pompe même. Mais dans ce temps-là, dans ce sacrifice visible, il y a au-delà du cœur physique, le cœur de la vie de chacun d'entre nous. Et le Seigneur Jésus nous donne, au travers de son sang versé, le miracle d'une transformation de notre vie, de fond en comble, un cœur nouveau. Il nous fait neuf. En lui, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.
Je suis une nouvelle créature avec lui. Je suis maintenant de la nature et au bénéfice de lui. Et ça, c'est à cause de ce qu'il a fait pour moi. De son sang qui a été versé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, peuple de Dieu que nous sommes, moi-même avec vous, gens qui ne méritons rien par nous-mêmes, et ce matin, nous sommes tellement remplis de gratitude. Et nous pouvons venir vers le Seigneur tel que nous sommes, non pas pour chercher à nous comparer les uns ou les autres, ou à essayer de gagner quoi que ce soit. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. C'est ce que Hébreux 11 nous dit, ce qui plaît à Dieu. Ce qui rend agréable à Dieu, c'est notre foi. Tout ce qui s'approche de Dieu s'approche par la foi. Alors, c'est pour nous l'occasion, par ce moment encore d'adoration qui continue, ce moment où nous faisons ce que le Seigneur Jésus encourage aux chrétiens en disant « Faites ceci, parlant du repas, faites ceci en mémoire de moi, pour ne jamais oublier ce que j'ai fait pour vous. » Non, 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 n'oubliez jamais. Et quelque part ce matin, nous avons pris un peu plus de temps pour nous remémorer de tout ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est pas un homme, c'est pas un pasteur, c'est Jésus. Nous sommes émerveillés, c'est lui qui nous attire. C'est lui, c'est lui. Je veux me rappeler de lui. Et quand il parle de ce souvenir que nous ne devons jamais oublier et duquel nous pouvons constamment, tout au long de notre vie, dans toutes les circonstances, tirer profit. Il dit « Jusqu'à ce que je boirai de nouveau avec vous dans mon royaume. » Alléluia. Alors, parlant de ce jour prochain où l'Église va se retrouver avec le Seigneur, nous allons dans l'Apocalypse et nous voyons ce qu'il en est. Parlant de ce sang que Jésus a amené, quand nous avons lu au début dans son sanctuaire, eh bien, voilà ce que je lis dans Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Il fut précipité, qui ? Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant Dieu, qui nous accusait devant Dieu, notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, parlant de nous, hein, des rachetés, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage qui confesse le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Hein. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, c'est-à-dire ils ont tenu ferme jusqu'au bout, jusqu'à même s'il fallait passer par la mort, la persécution ou quoi que ce soit. Et ils ont dit, ceux qui se retrouvent avec le Seigneur là-haut, je crois dans le sang de Jésus, je crois dans le sang de Jésus et je resterai vainqueur sous le sang de Jésus. Alléluia, jusqu'au bout. Et là-haut dans le ciel, après que nous ayons pris, semaine après semaine, le souvenir de Jésus, et en regardant en espérance vers le jour à venir, eh bien, dans ce ciel-là, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus, et il dit, je mangerai avec vous les noces de l'agneau. Alléluia, alléluia. Je boirai avec vous, comme nous allons boire le vin qui représente ce que Jésus a fait, mais un jour
nous boirons aussi le vin avec lui. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alors, que ce matin, chacun d'entre nous, par l'action de la parole de Dieu et par l'action de son esprit qui applique cette parole à chacun d'une manière personnelle, nous puissions dire, sous le sang de Jésus, sous le précieux sang de Jésus, je reçois un cœur nouveau, je me place devant lui. Il me donne la victoire pour ne pas faire ma volonté, mais celle de Dieu. Il me donne la victoire et la délivrance de mes souffrances, de mes maladies. Il me donne la délivrance de tout ce qui est malédiction et mauvaise étoile sur ma vie. Il me libère de mes œuvres mortes, mais il me donne de faire des bonnes œuvres. Il me permet de marcher toujours en victorieux dans la lumière. Il me donne un cœur nouveau et il me maintient dans la victoire jusqu'au jour de son retour. Alléluia. Alléluia. À lui soit la gloire, n'est-ce pas? Eh bien, continuons. Je donne la place à la suite et continuons. Vraiment, il est digne, n'est-ce pas, d'être loué. Et peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas trop élevé votre voix pour lui dire qu'il est digne et que vous êtes rempli de gratitude pour lui. Eh bien, en toute simplicité, même une parole, merci Seigneur, merci pour ton sang versé, merci pour la croix. C'est une simple parole au Seigneur et c'est la victoire. La victoire sur votre propre volonté, sur votre propre retenue. Il nous a été rappelé cela tout à l'heure dans un don spirituel. La propre victoire sur nous-mêmes. Et c'est tellement important d'être rempli de reconnaissance à l'égard du Seigneur. Alléluia. Amen. Je laisse la place à mon frère.